nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
Passer une demi-heure ensemble pour.
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, on les appelle carcinomes et mélanomes. Il s'agit de cancers de la peau qui, depuis les années 60, ne cessent d'augmenter. Un chiffre pour vous donner un ordre d'idée. Environ 90 000 nouveaux cas de cancer de la peau sont diagnostiqués en France chaque année. La plupart sont des carcinomes, près de 90% des cas en réalité, ce sont eux qui, heureusement, se traitent le mieux. Mais le mélanome, plus méchant, ne cesse lui aussi de se développer, le nombre de cas double en effet tous les 10 ans. Alors comment dépister, traiter et prévenir ces cancers? C'est ce que nous allons voir en compagnie de notre invité, le professeur Jacques Bazex, ancien chef de service en dermatologie des hôpitaux de Toulouse, professeur honoraire à la faculté de médecine de Toulouse et membre de l'Académie nationale de médecine. Monsieur, bonjour.
Bonjour madame.
Merci d'être avec nous au studio de Canal Académie. Commençons, si vous voulez bien, par évoquer les causes du cancer de la peau. Il est évident, il s'agit du soleil et de ses dérivés. Mais je crois savoir, et notamment l'Académie nationale de médecine s'est penchée dessus, que vous avez dans votre viseur les cabines de bronzage.
Certainement. Certainement, on ne peut pas accuser les cabines de bronzage d'être les seules responsables du développement des cancers cutanés. Ce qu'il faut considérer, c'est que chacun a un capital solaire à gérer pour toute sa vie et que le capital solaire additionne les effets des rayons ultraviolets A, B, naturels et puis des rayons ultraviolets A artificiels. Donc tout ça peut conduire à un excès d'exposition et c'est cet excès d'exposition qui peut faire le lit quelques années plus tard de la survenue de ces cancers cutanés. Vous avez signalé les carcinomes basocellulaires qui sont les plus fréquents, qui ne sont pas graves du tout.
Donc basocellulaire peut-être pour nos auditeurs.
Basocellulaire c'est une forme, c'est tout à fait banal. Les spinocellulaires qui sont peut-être un peu plus agressifs, mais l'exérèse est facile, ils sont enlevés en totalité. Et enfin, les mélanomes dont vous avez évoqué aussi la gravité. Alors, pour les deux premiers, basocellulaires et spinocellulaires, il faut toujours réaliser un examen histologique et s'assurer sur la pièce histologique que l'exérèse est bien complète. C'est pour ça que chaque fois qu'on enlève une lésion cutanée, il faut en faire l'examen histologique. Pour le mélanome, l'examen doit être un peu plus attentif parce qu'on rentrera en compte non seulement le diagnostic de la lésion, mais aussi son épaisseur, son extension, parce que le pronostic est tout à fait différent. Et l'anatomopathologiste vous donnera les résultats de cet examen. Alors bien évidemment, on sait très bien que lorsque on est au stade tout à fait initial du mélanome, le pronostic est favorable. Encore que parfois, on peut avoir des mauvaises surprises.
Pourtant, on dit que le mélanome est un des cancers les plus agressifs.
Les plus agressifs, vous avez tout à fait raison, mais agressif à partir du moment où il a pris un certain développement. Il peut essaimer à distance des débris de cellules de mélanome, des mélanocytes, puisque ce sont des mélanocytes dont il s'agit, et ces mélanocytes partant de cette tumeur peuvent, insidieusement, sans qu'on les aperçoive, se disséminer dans l'organisme. Et c'est cela qui fait toute la gravité. Le problème est d'enlever cette lésion initiale avant qu'elle n'ait pris des dimensions et qu'elle se soit étendue. C'est pour ça que l'examen en est tout à fait attentif. De toute manière, la règle, je vous le répète, examen histologique complet de toute pièce enlevée à la suite d'un geste chirurgical.
Alors, on va avancer effectivement en ce sens. Vous avez parlé, il y a peu de temps, de capital solaire. Est-ce à dire que des personnes rousses à la peau laiteuse ont plus de risques de développer un mélanome qu'une personne à la peau mate, voire une peau noire?
C'est tout à fait exact. Les peaux claires et les peaux rouquines sont beaucoup plus exposées au mélanome malin. D'ailleurs, ces personnes vous diront bien qu'elles sont très sensibles aux coups de soleil. Par contre, les peaux bronzées, le méditerranéen, lui, est beaucoup moins sensible. Il peut s'exposer, il brunit très vite et il peut s'exposer au soleil. Le risque est bien inférieur. Toutefois, il faut savoir qu'il y a, si vous voulez, très certainement un caractère que l'on ne perçoit pas, que l'on ne peut pas identifier et qui semblent être à l'origine de certains cancers que l'on n'attendrait pas, certains mélanomes que l'on n'attendrait pas ou certains cancers cutanés. C'est-à-dire que certaines personnes, ayant la même couleur de peau que certaines autres personnes, ne feront pas de mélanome et d'autres feront des mélanomes ou des cancers cutanés plus volontiers. Donc il y a une prédisposition. Et cette prédisposition existe d'autant mieux que nous savons qu'il existe des mélanomes malins familiaux.
Donc un facteur héréditaire.
Il y a très certainement, dans ce cas présent des mélanomes malins familiaux, il y a un facteur héréditaire. Et puis il y a aussi des familles où l'on trouve plus volontiers, sans que l'on puisse parler de mélanomes malins familiaux, il y a une prédisposition plus importante. Alors cette prédisposition se retrouve aussi chez les sujets qui présentent des grains de beauté. Il y a des familles qui ont des grains de beauté, et des grains de beauté dont certains ont un aspect un peu plus agité au point de vue cellulaire. Ce sont les névus dysplasiques.
Ils se déforment alors, ils bougent?
Pas forcément, mais ils sont là, ils peuvent ne pas bouger du tout. Mais ce névus dysplasique sera beaucoup plus sensible aux expositions solaires. Ça, c'est un point important. Le deuxième point important, si vous voulez, c'est les coups de soleil dans l'enfance. Alors, le coup de soleil dans l'enfance déterminera des années plus tard les conditions de développement des cancers cutanés. C'est pour ça qu'il est très, très, très important de faire en sorte que les enfants ne s'exposent pas au coup de soleil. Le coup de soleil est quelque chose qu'il faut éviter à tout prix. Mais ce n'est pas suffisant. Nous en parlerons tout à l'heure à propos de la protection solaire. Voilà ce que l'on peut dire, si vous voulez, au rôle du soleil, son partenaire, la peau. Et donc, il faut savoir que chacun sera sensible. Alors, un élément aussi important, c'est que l'agression et la quantité de soleil reçue brutalement sur une peau qui n'a pas été exposée auparavant est un geste encore plus agressif de la part du rayonnement.
Donc, tous ces Parisiens bien blancs qui descendent dans le sud de la France ont un doublement de risque de coups de soleil et donc, à terme, pourquoi pas, de développer beaucoup plus âgés.
C'est pour ça, c'est l'exemple des Australiens qu'on a envoyé, qui étaient originaires d'Irlande et d'Angleterre, qu'on a envoyé en Australie pour peupler l'Australie. Eh bien, ceux-là sont arrivés avec une peau qui était claire, beaucoup de rouquins, et on trouve beaucoup de cancers cutanés en Australie, beaucoup de mélanomes en Australie.
Effectivement, vous nous disiez qu'un des facteurs qui pouvait alerter, c'était ces grains de beauté qui sont dysplasiques. Est-ce que tous les cancers de la peau naissent de grains de beauté, Jacques Bazex?
Non. Tous les cancers de la peau ne naissent pas de grains de beauté. En fait, tous les mélanomes, parce que c'est différent pour les spino- et basocellulaires. Il faut partir du principe, je crois, que toute lésion cutanée nouvellement apparue, si elle est légèrement pigmentée, doit faire soupçonner la survenue d'un mélanome malin. Toute lésion cutanée. Et donc, doit être l'objet d'un examen. Alors, c'est facile à comprendre, je crois, qu'il faut revenir à l'origine de cette petite cellule, le mélanocyte, qui est bien calfeutré au fond de la basale de l'épiderme, qui est au-dessous de l'épiderme, qui est aujourd'hui à la jonction, si vous voulez, avec le derme. Et cette cellule-là, pour protéger l'organisme des rayons solaires, va sécréter des grains de mélanine. Et ces grains de mélanine, à la suite d'une exposition solaire, vont bronzer la peau. Mais vont bronzer la peau, c'est-à-dire que va émettre des prolongements dans chacun des kératinocytes pour apporter un grain de mélanine qui va monter progressivement et faire une espèce de tapis qui va protéger l'organisme et qui va coloniser l'ensemble de l'épiderme. Alors, comme les expositions solaires parlent aux rayons ultraviolets B entraînent un épaississement cutané, cet épaississement cutané par lui-même va protéger, mais il va protéger aussi parce que la zone qui va être couverte de grains de mélanine sera aussi beaucoup plus épaisse. Vous voyez, l'organisme est fait en sorte de façon à se protéger. Bon, mais les sujets qui sont de couleur de peau blanche ou rouquin auront du mal à acquérir une pigmentation. Et donc, une exposition solaire s'accompagnera d'un coup de soleil avant que la peau soit réellement pigmentée. Certaines personnes ne pigmentent pas bien. Alors, c'est ce qui se passe avec les rayons ultraviolets A. Les rayons ultraviolets A que vous recevez dans les cabines de bronzage,
et on y revient,
ne protègent pas contre les expositions solaires. Pourquoi ? Parce que la pigmentation ne sera que locale. D'abord, elle sera très faible. Et pour obtenir une pigmentation, il faudra des quantités très importantes d'UVA. Non seulement donc, il y aura une pigmentation qui sera juste une petite coloration, et surtout, vous n'aurez pas l'épaississement de l'épiderme. Donc, on ne peut pas dire que les expositions aux rayons ultraviolets A s'accompagneront d'une protection solaire satisfaisante. Et pourtant, vous aurez reçu des rayons ultraviolets A. Je compléterai ce que je vous dis, parce que je crois que vous ne me croyez pas tout à fait.
Non, mais...
Ces rayons ultraviolets A, qui sont toujours bien supportés, quand ils sont en petite quantité, en apparence, ils sont bien supportés parce qu'ils ne vous donnent pas de coup de soleil. Mais ils pénètrent, ils traversent la peau, ils arrivent jusqu'à ces cellules, ils traversent l'épiderme, ils arrivent jusqu'à ces cellules. Et comme ils ne sont pas arrêtés par les kératinocytes, comme sont arrêtés les ultraviolets B, ils pourront entraîner des lésions des mélanocytes. Et comme vous aurez beaucoup d'exposition, que vous la tolérez très bien puisqu'il n'y a pas le coup de soleil, vous aurez des lésions des mélanocytes qui sont à l'origine effectivement des mélanocytes. C'est la raison pour laquelle autrefois, quand on utilisait des crèmes qui ne protégeaient que contre les rayons ultraviolets B, on constatait qu'il y avait quand même un vieillissement cutané considérable. Il n'y avait pas de coup de soleil. Les personnes restaient au soleil longtemps puisqu'on enlevait les rayons ultraviolets B. Vous restiez au soleil pendant de très longues heures, mais vous aviez quand même des lésions cutanées. Or, on sait que pour qu'il y ait un peu de pigmentation, il fallait quand même qu'il y ait agression. Autrement dit, la pigmentation que vous obteniez avec ces rayons ultraviolets A, qui était très faible, il fallait des quantités énormes et vous aviez déjà des lésions cutanées. Ces doses répétées, même si elles étaient petites, donnaient des conséquences désastreuses. C'est pour ça que l'utilisation de crèmes uniquement arrêtant les rayons ultraviolets B n'ont pas résolu le problème des mélanomes.
Et aujourd'hui, il existe des crèmes solaires qui couvrent contre les UVA et UVB.
À la condition, je crois que vous avez bien lu tout ce qui est écrit, à la condition de mettre la quantité suffisante, de renouveler les applications toutes les 2 heures parce que la transpiration souvent les fait disparaître, à la condition d'en remettre après s'être baigné, à la condition de mettre la quantité importante et qui est testée lorsque l'on teste la crème et que les appareils qui permettent ce test sont faits pour calculer des indices qui sont très élevés mais qui imposent des applications de crème en quantité importante. Autrement dit, il faut mettre vraiment beaucoup de crème pour avoir une bonne protection et la renouveler. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut aussi se protéger par des...
T-shirts.
Des t-shirts de couleur. De couleur, parce que... Et en fil de coton. Des t-shirts coton à mailles serrées, de couleur, et ne pas utiliser pour se protéger des nylons clairs qui laissent passer, qui arrêtent certes les rayons ultraviolets B, mais qui laissent passer tous les rayons ultraviolets. La preuve, on va vous vendre sur les plages, à côté des plages, on vous dit prenez un parapluie, ils arrêtent les UVB, mais vous pourrez bronzer dessous, mais ça laisse passer les rayons ultraviolets A. Et c'est catastrophique. Alors faites attention à vos enfants, en plus des lunettes qu'il faut toujours mettre, il faut absolument se protéger. Et sachez qu'il faut se protéger parce que l'effet néfaste des rayons ultraviolets A s'additionne en fin de journée, quand les rayons ultraviolets B sont moins intenses, on se dit « tiens, je peux rester au soleil puisque je risque moins de brûler ». En fait, ce n'est pas vrai, c'est inexact. Les effets néfastes des rayons ultraviolets A s'additionnent aux effets déjà néfastes des rayons ultraviolets B.
Alors ça, c'est pour la partie prévention. Du coup, on est resté un peu longtemps sur cette partie qui en vaut bien sûr la peine. Effectivement, quand vous parliez des camines de bronzage, vous me voyez avec un petit sourire. Non pas que je remettais en cause ce que vous disiez, mais certains dermatologues font appel à ces ultraviolets pour certains traitements.
Ça n'a rien à voir. Nous distribuons, quand on traite des psoriasis, soit des rayons ultraviolets A, mais qui, aux doses que l'on utilise, sont inoffensifs. Et pour les rendre actifs, on est obligé de prescrire des psoralènes. À ce moment-là, vous avez une photosensibilisation qui répond à une activité thérapeutique nécessaire pour le psoriasis. Et puis par la suite, d'abord, nous limitons le nombre des séances. Nous limitons le nombre des séances dans l'année et même en additionnant toutes les quantités, nous n'arrivons pas à la moitié de ce qui est libéré dans une séance d'ultraviolet artificiel. Donc, ça n'a rien à voir. Et puis, nous imposons des surveillances. Nos psoriasis, nous les voyons. Et lorsque nous les voyons chaque fois, nous les examinons avec un œil de professionnel. Donc, ça n'a rien à voir, on ne peut pas. Aujourd'hui, on utilise les ultraviolets B aussi, une longueur d'onde 311 nanomètres, qui est un peu... Mais là aussi, les doses sont extrêmement doses limitées, et les petites quantités que l'on donne... Non, d'ailleurs, sur le plan statistique, les statistiques qui sont faites, nous n'avons pas de risque de mélanome avec les traitements quand ils sont bien conduits, et puis nous surveillons très régulièrement. Rien à voir, madame, avec ce qui se passe avec les salons à bronzer.
D'accord, merci pour cette précision. Avançons sur la prévention, effectivement, où vous parliez des lésions qui devaient alerter nos auditeurs, par exemple, n'importe quelle personne qui doit être attentive à sa peau. Il y a deux parties chez les dermatologues. Il y a ceux qui vont retirer des grains de beauté par prévention, notamment sur les zones de frottement, et puis ceux, d'autres dermatologues, ceux qui vont vous demander, patient que vous êtes, de prendre des photos pour justement observer, regarder si un grain de beauté, des grains de beauté évoluent. Quel est votre regard là-dessus? J'imagine que les deux techniques se valent.
Ce qu'il faut, c'est surveiller. Bon, mais alors, prendre des photos, il faut les prendre à intervalles, il faut se regarder, il y a des règles qui sont données pour voir si telle grain de beauté a augmenté. C'est... Bon, c'est très bien tout ça, mais ce qu'il faut regarder de cette attitude, c'est que la personne se sent concernée. Bon, alors, qu'elle regarde, mais surtout que tous les ans, elle prenne l'avis d'un spécialiste. Parce qu'il n'y a que l'œil du spécialiste qui permet, si vous voulez, surtout que l'œil aidé par un dermatoscope peut orienter. Bon, notre attitude, et je crois qu'elle est assez positive, il faut être très soupçonneux vis-à-vis de toutes lésions qui sont récemment apparues. Pourquoi ? Le mélanocyte qui va dégénérer, il va passer par un premier stade où il va se multiplier, un tout petit peu se multiplier. Là, il est encore tout à fait calme. Et puis, à un moment donné, la cellule va se perturber. Alors, la sécrétion qu'elle a va se modifier. C'est pour ça que, de temps en temps, il va s'arrêter de sécréter et vous allez avoir des mélanomes malins, achromiques. Et de temps en temps, il va, au contraire, multiplier sa production de mélanine, de graines mélanine. Et alors, il va y avoir une espèce de panachage, c'est pour ça que la lésion va se modifier, risque de devenir plusieurs couleurs, se modifier dans la coloration, en plus ou en moins. Et c'est pour ça que cette lésion se modifie. Comprendre que le mélanocyte, qui est totalement déréglé, va avoir sa production de mélanine, au lieu d'avoir une production régulière, va avoir une production de mélanine qui va être irrégulière. Cette irrégularité est un élément essentiel. Deuxième point, la cellule va se multiplier. Donc, ça va modifier la forme de la lésion. Or, cette lésion peut devenir nodulaire. Elle peut s'étendre. Elle peut s'ulcérer.
Elle peut saigner.
Elle peut devenir prurigineuse. Et une cellule peut partir déjà donner un ganglion. C'est pour ça que notre règle était qu'il faut faire examiner toute lésion qui est récemment apparue, qui se modifie dans la taille, dans la forme, dans la coloration, en plus ou en moins, toute lésion qui devient prurigineuse, toute lésion qui saigne et toute lésion qui est sur une zone de frottement, parce qu'on ne saura pas si c'est le mélanome qui s'est développé ou on ne saura pas si c'est un traumatisme.
Mais certains grains de beauté sont retirés avant même qu'il y ait une lésion. C'est justement en prévision de potentiel frottement.
Eh bien, madame, moi, je préfère qu'on retire pour rien une lésion récemment apparue plutôt que se dire « j'ai résolu, mon œil est satisfaisant ». Vous savez, on a mis 30 ans pour apprendre la discipline et au bout de 30 ans, on arrive quand même à se tromper. Alors, il vaut mieux enlever une lésion, surtout si dans la famille, il y a déjà eu des mélanomes, surtout s'il y a eu des névus dysplasiques, surtout si cette personne a déjà eu des graines de beauté qui ont bougé. Et surtout aussi si cette personne a été beaucoup au soleil et a reçu des coups de soleil dans l'enfance.
Mais face à un dermatologue, je ne sais pas si on ose dire qu'on prend des grandes doses de soleil et qu'on ne se couvre pas de crème solaire. On est un peu honteux quand on vient voir un dermatologue en disant « voilà, je prends des coups de soleil ».
En tous les cas, les exérèses peut-être excessives ont eu un résultat favorable puisque beaucoup de mélanomes ont dû être enlevés puisque le nombre de mélanomes à un certain moment a régressé sous l'effet des campagnes qui ont conduit à la fois à la protection et aux exérèses d'un certain nombre de graines de beauté. Chaque fois qu'il y a un grain de beauté suspect, il faut l'enlever. Chaque fois qu'il y a un grain de beauté au niveau d'un ongle, dont on n'est pas sûr, il faut l'enlever. Chaque fois qu'il y a un grain de beauté sur les plantes et les paumes, sur des zones de frottement, il faut l'enlever parce que ce sont des situations où on n'est pas sûr de la stabilité de la lésion et de son absence de dégénérescence.
Alors Jacques Bazex, on arrive au terme de notre émission. Quand même quelques mots sur les traitements à venir pour le mélanome qui est le cancer le plus agressif, comme on le disait.
Pour les mélanomes les plus agressifs, les traitements aujourd'hui, malheureusement, ne sont pas très actifs.
Aux États-Unis, je crois, il y a un médicament qui a été mis sur le marché.
Mais depuis très peu de temps, il y a un médicament notamment qui a été présenté lors d'un congrès, je crois, aux États-Unis au mois de mai ou juin, et une molécule qui aurait fait état, à la suite de sa prescription, de résultats qui étaient favorables. D'ailleurs, certaines écoles françaises ont pu utiliser ce traitement et les résultats des écoles françaises se rapprochent des résultats des écoles mondiales. Au point que quand même, aux États-Unis, le médicament a été mis sur le marché. Alors c'est un médicament qui a une activité particulière. Je ne vous dis pas le nom parce qu'il n'est pas encore commercialisé en France, mais il aurait de bons résultats à la condition de réaliser un test qui montre que le sujet peut être sensible à ce type de médicament parce qu'il aurait telle ou telle anomalie. Alors ça, c'est une première chose. La deuxième chose, il y avait jusqu'à maintenant les interférons, mais on les utilise à titre préventif, mais ils n'ont pas donné les résultats que l'on attendait. Mais l'interféron a donné quand même une ouverture vers des thérapeutiques agissant sur la réaction immunitaire. Et là, on peut avoir aussi des effets. Certains médicaments auraient tendance à stimuler la réaction immunitaire. Alors là aussi, on peut avoir, si vous voulez, de bons espoirs de ce côté-là. Et certaines écoles françaises, notamment à Nantes, travaillent beaucoup sur mélanome et cancer. Et ils ont même expliqué pourquoi l'exérèse de certains mélanomes laissait des métastases se développer, ça a été quelque chose qui a été mieux compris. Voilà, en fait, de tout cela, il reste quand même la prévention des expositions solaires, il reste la prévention des coups de soleil dans l'enfance, du coup de soleil chez l'adulte lorsque la peau n'est pas brune, donc avec vraiment une précaution pour aider un peu au bronzage, et puis surtout, dès qu'il y a une lésion qui est un peu suspecte, ne pas hésiter à la montrer. Elle sera examinée au dermatoscope et cette lésion, si vrai, sera enlevée. Mais enfin, dites-vous qu'une lésion enlevée, même pour rien, parce que les chirurgiens sont très très habiles, le font très bien, même pour rien, vaut mieux qu'une lésion qui laissera par la suite échapper des métastases qui seront très difficiles à contrôler.
Eh bien, merci Jacques Bazex. Ça sera le mot de la fin. Merci à vous d'être venu nous voir. Il y en aurait encore beaucoup de choses à dire sur le mélanome, sur le cancer de la peau, mais voilà, on vous recevra peut-être pour une prochaine émission pour en parler plus longuement. Merci d'être venu nous voir et puis j'espère à bientôt pour une prochaine émission.
Merci madame pour votre accueil.